France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est le moment de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Oui, pour venir en aide aux enfants les plus fragiles, figurez-vous, en situation de handicap ou des enfants fragilisés par la vie tout simplement, il existe une solution Elisabeth, elle s'appelle Pour un sourire.
Pour un sourire, aider des enfants en situation de handicap, mais aussi celles et ceux qui traversent une situation difficile. Des enfants, par exemple, placés en foyer ou en maison d'enfants, parce qu'aujourd'hui, seuls 30% des enfants, par exemple, qui présentent des troubles autistiques sont scolarisés en maternelle. Ils sont pris en charge par l'école à peine quelques jours par semaine. Et c'est un parcours semé d'embûches pour participer, par exemple, aux activités périscolaires. Ainsi, pour offrir une bulle d'oxygène à des enfants dont la vie n'est pas toujours simple, la toute jeune association, je dis jeune association parce qu'elle existe depuis le mois de mars, Pour un sourire propose des activités sportives, musicales, culturelles, manuelles à tous ces enfants qui en ont besoin. Bonjour Déborah Zemmour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de l'association Pour un sourire, une association toute jeune, on vient de le dire. Comment ça vous est venu cette idée, parce qu'il y en a plein des associations qui existent, de proposer des activités sur mesure à ces enfants atteints de handicap ou des enfants en difficulté?
Alors, c'est lors de mon action bénévole au sein de centres d'IME, Institut Médico-Éducatif et Social, que m'est venue l'idée de la création de Pour un sourire.
Donc vous avez déjà été bénévole?
Tout à fait.
Vous avez fait ça?
Bénévole, alors dans des IME, mais également dans des centres pour jeunes en situation difficile. Mm-hmm. Et en étant bénévole là-bas, je me suis vite rendu compte de la carence qu'il y avait au niveau de l'animation et des activités qui étaient proposées. Puisqu'en fait, elles étaient proposées que de façon très ponctuelle et n'amenaient vraiment rien à l'enfant dans la continuité.
Il n'y avait pas de suivi, de progression.
Suivi, voilà, absolument. Mm-hmm. Ou parfois, elles étaient absolument inexistantes, manque de moyens et manque de personnel.
Bien sûr.
À un moment donné, je me suis moi-même remise en question et j'avais besoin de jouer un rôle social, d'aider l'autre. Et donc, j'ai décidé de mettre ma vie juridique, ma carrière juridique.
Parce que vous étiez juriste.
J'étais juriste dans un grand groupe. Mmh. Et j'ai décidé de mettre cette carrière entre parenthèses pendant un petit moment et de me consacrer à la création de cette association.
Alors, Pour un sourire, donc ça existe depuis le mois de mars. Comment ça fonctionne pour les auditeurs qui sont certainement intéressés? Comment ça marche?
Alors, les centres directement, puisque nous, on intervient exclusivement dans les centres et non chez les particuliers. Les centres font appel à nous.
Les centres, c'est qui?
Alors, ce sont des IME, des instituts médico-sociaux et éducatifs, des maisons d'enfants, des maisons où on va placer les enfants en difficulté. Et puis, ils nous appellent en nous disant, on a un besoin, on a une idée, on a envie de mettre en place des activités. Qu'est-ce que vous proposez?
Alors, vous proposez quoi?
Voilà, donc on propose différentes activités, des activités sportives. Alors, c'est plutôt du sport adapté lorsqu'il s'agit d'enfants en situation de handicap. Tout ce qui est bien-être, sophrologie, yoga adapté. On a également des activités musicales où on fait venir des musiciens, toujours bénévoles, et qui vont alors soit faire chanter les enfants, les faire danser, parfois leur faire manipuler un instrument. Et enfin, des activités artistiques et culturelles au sens large, du théâtre, de l'improvisation, mais également tout ce qui tourne autour de la peinture, puisqu'aujourd'hui, on met en place un très grand projet dans le 10e arrondissement d'inclusion, où on fait intervenir dans un centre qui s'appelle le Centre Raphaël, un centre qui accueille des enfants et des jeunes en situation de handicap. On fait intervenir une classe de CE1 d'un établissement.
Pour
les inclure. Et ils vont venir tous les 15 jours travailler avec eux ensemble à la création d'œuvres peintes.
Notre coach, Catherine Testa.
Alors bravo, je suis toujours bluffée quand quelqu'un fait face à un besoin et finalement se lance. Vous êtes basée à Paris aujourd'hui, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Et si oui, quel genre de bénévoles?
Absolument, on a besoin de bénévoles tout le temps. Des bénévoles, alors avant qu'ils amènent une compétence particulière, et j'insiste sur ça, parce qu'il faut qu'ils aiment absolument les enfants. C'est pas un bénévole qui va venir en disant j'ai besoin
de donner du sens à ma vie.
Absolument. Ils doivent impérativement les aimer profondément pour amener quelque chose. Et oui, on a besoin de bénévoles. Alors, s'ils amènent une compétence, c'est encore mieux. Alors, musiciens, on a beaucoup en ce moment d'étudiants en théâtre qui nous appellent et qui veulent donner de leur temps en apprenant le théâtre, la communication, comment dialoguer. Également en danse, on a de gros besoins en sport, puisqu'on a très peu d'intervenants sportifs, ils ont du mal à s'imprégner de ce milieu-là et surtout à intervenir dans le milieu du handicap.
Quel est le retour que vous disent les enfants une fois qu'ils ont fait les ateliers ou les sorties ou l'activité sportive? Ils ressortent avec quoi? Avec quel message?
Alors, je pense, pour ceux qui peuvent parler, avec un peu d'espoir. C'est-à-dire que même dans leur regard, on voit tout de suite que c'est possible, enfin, de faire quelque chose, de partager avec l'autre. Je suis capable de faire quelque chose, de donner. Enfin, on m'estime. Enfin, je suis valorisée et je prends une place à un moment donné. Et c'est surtout ça, en fait, qui ressort des activités.
Trouver une place dans le groupe. Il y a un déroulé bien précis, hein. Il y a un responsable qui met en place le programme. Donc, c'est quasiment de la demande sur mesure.
Tout à fait. On essaie de coller au maximum aux besoins des enfants. Donc, on fait appel à nous. On met en place un programme avec la direction, évidemment, des centres,
du centre.
Maisons d'enfants. Tout à fait. Des éducateurs qui font un travail formidable aux côtés des enfants. Des bénévoles. On met en place un programme.
Il faut qu'ils aient une compétence, donc ces bénévoles.
Tout à fait. Tout à fait. Et puis parfois, ils n'ont pas vraiment de compétences et ce sont des seniors qui vont venir proposer de leur temps pour de l'aide aux devoirs, pour de l'aide à l'écriture, à la lecture. On met en place un programme bien précis, un déroulé. On commence par un atelier découverte et ensuite, généralement, ça se passe plutôt bien. On continue sur le mois ou sur l'année.
Toutes sortes d'enfants, tous les âges?
Alors, tous les âges jusqu'à la préadolescence, même si quand les besoins se font ressentir, on va un peu au-delà, donc on va autour de 17-18 ans au maximum.
Et pour l'instant, en région parisienne uniquement?
Absolument.
Avec, je suppose, des envies de se développer?
Tout à fait, au maximum.
Vous avez besoin
de
quoi?
Pour en faire bénéficier beaucoup de centres.
Alors, un appel aux dons, je crois?
Absolument, on a besoin de deux choses principalement. La première chose, c'est un financement, notamment pour financer le projet d'inclusion qui est en cours autour de la peinture, pour
financer
louer du matériel, pour vendre, pour acheter du matériel. Également pour permettre le transport des enfants en situation de handicap qui ne peuvent pas se déplacer, parfois pour se rendre à une exposition, pour se rendre aux activités lorsque les activités se passent à l'extérieur. Et puis on a évidemment besoin tout le temps, de façon continue, de bénévoles.
Ça s'appelle Pour un sourire. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette toute nouvelle association. C'était La Solution. Il est midi 58. Europe 1. Restez avec nous. Que dit de vous votre voix? Elle est une de vos signatures, celle que l'on entend dans le téléphone, celle qui fait passer vos émotions. On en parle aujourd'hui dans La France qui bouge. À tout de suite.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous le savez, on donne la parole à ceux qui innovent, qui créent, qui cherchent à inventer le monde de demain. Et dans ce monde, la voix aura toute sa place. Demain débute à Paris le salon Voice Tech. Et si pour nous, à la radio, elle est l'instrument principal, forcément, vous allez voir qu'elle trouve sa place dans bien des domaines désormais. Bonjour William Simonin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Vivoca. Vous concevez des assistants vocaux sur mesure destinés à l'hôtellerie haut de gamme notamment. J'adore l'idée que tout est parti dans votre tête et dans celle de vos cofondateurs du film Iron Man en 2014. Racontez-moi.
Tout à fait. C'est vrai que l'histoire à l'origine remonte à peu près 5 ans. Où, avec mes associés, en fait, on a vu ce fameux film Iron Man, où il y a en fait une intelligence artificielle qui s'appelle Jarvis et qui comprend tout ce qu'on lui dit. On a trouvé ça génial, alors on s'est dit à l'époque, il faut qu'on arrive à acheter quelque chose comme ça. Sauf qu'en allant sur Internet, on se rend compte que ça n'existe pas. Alors on s'est dit, on va le faire.
Donc dans cette intelligence artificielle du film, il est possible de lui demander tout ce qu'on veut. Et vous, vous vous êtes dit, on va faire l'équivalent. Est-ce que ça a été simple de concevoir le produit?
Alors effectivement,
parce que vous étiez étudiant à l'époque encore, hein?
Tout à fait, tout à fait. C'était lors de nos dernières années d'études qu'on s'est lancé là-dedans. Est-ce que c'est ce qu'on a essayé de faire? Oui. Est-ce que ça a été simple? Non. Mais en même temps, si c'était simple, tout le monde le ferait.
Évidemment.
Donc effectivement, l'idée de cette intelligence artificielle qu'on a appelée ZAC, donc c'est notre produit historique qui est à destination du coup de l'hôtellerie haut de gamme. L'idée, c'est que c'est déjà de pouvoir contrôler tous les équipements, tous les objets connectés à la voix. Donc de pouvoir, par exemple, créer des ambiances. Par exemple, en disant ZAC, je veux me relaxer. Et du coup, ce dernier éteint la télé, diffuse des huiles essentielles, ferme les volets, met de la musique, par exemple, mais également du coup de pouvoir répondre à nos questions, tout comprendre et potentiellement dans le cadre des hôtels également avoir un peu le côté majordome sur mesure. Par exemple, toutes les fonctionnalités de room service, on peut les faire grâce à Zach.
Donc j'ai un boîtier qui est posé sur ma table de chevet dans ma chambre d'hôtel par exemple, et j'ai un petit raton laveur en livrée qui va s'afficher sur l'écran.
C'est
à
ça.
Qui je vais pouvoir demander par exemple de monter une bouteille de champagne.
Exactement, c'est tout à fait l'idée. Donc c'était très important pour nous en fait de personnifier en fait le personnage pour essayer du coup de favoriser au maximum le côté intuitif de la solution. Et on peut lui demander, de la même façon qu'on pourrait lui demander de monter une bouteille de champagne, il peut réserver un taxi, nous donner des informations sur un restaurant, demander de ne pas être dérangé, ce genre de choses. Et également du coup le raton laveur, on peut également du coup le personnaliser en fonction de l'hôtel ou du client en général.
Pourquoi est-ce que vous vous êtes d'abord adressé aux hôtels? Quelle était l'idée?
Alors, les hôtels, en fait, est un marché très traditionnel qui a besoin de se différencier. Donc, on compte en fait plus de 200 millions de nuitées, ne serait-ce qu'en France, par an. Et en fait, le côté, justement, expérience utilisateur par un assistant vocal avait en fait tout son sens dans les hôtels. Pour une société, c'est beaucoup plus simple en fait de pénétrer un marché, surtout le marché du coup du vocal via un acteur B2B, et ensuite de s'ouvrir à d'autres marchés, ce qu'on a fait par la suite dans le domaine, par exemple, du retail, du e-commerce, de la banque...
Oui, parce que vous avez aussi développé une solution assistant vocal sur smartphone pour, par exemple, nous aider à faire nos courses. Ça donne quoi? Je veux acheter de quoi faire un gâteau à la banane. Je ne connais pas la recette. Le smartphone et l'assistant vont pouvoir m'aider.
Tout à fait. Donc, on peut dire effectivement, ajoute à mon panier de quoi faire des crêpes pour 4 personnes. Et là, en fait, en 5 secondes, on a rempli sa liste de courses. Et on a même été plus loin. Dans le domaine du retail, ou par l'intermédiaire d'un assistant vocal disponible en fait sur une web application, en fait, on va pouvoir poser toutes les questions qu'on a en magasin. Donc ces questions, elles sont de nature très simple. Par exemple, on va dire à l'assistant, je cherche les cookies, où sont-ils? L'assistant répond, c'est au fond à droite, à côté du rayon frais. Comme ça, comme moi, on évite de se perdre. Et d'un autre côté, on a été plus loin en fait via un partenariat qui s'appelle SES Imagota, qui crée en fait les petites étiquettes digitales qu'on trouve en dessous de tous les produits.
Oui.
L'assistant va pouvoir faire du conseil. Par exemple, on arrive au rayon vin. Et on va pouvoir dire à l'assistant, ce soir, je voudrais manger un bœuf bourguignon avec ma copine. Est-ce que tu peux nous conseiller une bouteille de rouge à moins de 15 euros? Et là, l'assistant va aller jusqu'à faire clignoter l'étiquette sur étagère de ce qu'on a demandé. Donc imaginez-vous au brico-dépôt, quand on cherche les écrous d'un millimètre en alu, même quand on demande de l'aide à quelqu'un, il cherche avec nous. Donc voilà, ça a vraiment son sens et ça révolutionne vraiment l'expérience du retail.
Notre coach, Catherine Testard.
Alors, je trouve ça très ludique, limite marrant. J'ai jamais vu ça dans aucun hôtel. Je reviens vraiment à votre solution pour les hôtels. J'aurais peut-être deux questions. Comment est-ce que le staff, enfin l'équipe hôtelière le prend? Est-ce qu'elle a l'impression peut-être qu'on change son boulot, in fine? Et de deux, est-ce que quelqu'un qui n'a pas envie d'être écouté, parce qu'il y a quand même certains frileux aussi par rapport à ce genre de solution, est-ce qu'il a la possibilité de désactiver le lapin, enfin...
Ou le raton laveur.
L'assistant.
Zach.
Alors, pour la première question, non, en fait, Zach va améliorer en fait, le séjour du coup, du client. Ça ne remplace en aucun cas en fait, le travail de l'hôtelier. Au contraire, on va pouvoir en fait, lui faire gagner du temps. Je vous donne un exemple très simple. Personne aujourd'hui aime faire la queue pour faire un check-out. Donc ouais. Si, quand le client quitte la chambre, l'assistant peut prévenir en bas qu'attention, la personne va demander sa facture, en fait, ça va simplifier le travail en fait, des personnes au sein de l'hôtel.
Je comprends.
Elisabeth, le marché de la reconnaissance vocale, on le voit, est en pleine croissance.
Mais hein. Oui, hein, on vit un tournant majeur hein, avec la reconnaissance vocale. D'ailleurs, il y a nombreux spécialistes qui ont prédit hein, que d'ici 2020, hein, donc d'ici l'année prochaine, hein, d'ici un mois, de 30 à 50% des recherches digitales seront des recherches vocales. En fait, la reconnaissance vocale, c'est réellement démocratisé en 2011 avec la sortie de l'iPhone 4S. C'était ça, hein, souvenez-vous, le premier smartphone à être équipé de série avec tous les géants du web hein, qui étaient dessus, hein, d'Apple à Amazon, en passant évidemment par Google. Tous, absolument tous, ont développé leur technologie vocale et les ont appliquées à diverses utilisations.
On reste ensemble et on parle de la voix aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h19.
Europe 1.
Et si les assistants vocaux se mettaient au service des personnes âgées? C'est ce que fait Skip It. À tout de suite dans La France qui bouge. Europe 1. Dans la France Bouge cet après-midi, on parle de ces Français qui innovent dans le domaine de la reconnaissance vocale. Pour réagir ou nous poser vos questions, c'est simple, il y a Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous appeler au 3921 Raphaël.
Vous allez voir que la musique mène à tout, Céline, et parfois à des univers insoupçonnés. Bonjour François Millet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Si je dis ça, c'est parce que vous êtes président de l'entreprise 44 et que vous avez créé Skip It. Qu'est-ce que c'est Skip It ? Un assistant vocal domestique qui aide les personnes âgées. Sauf qu'au départ, en 2011, votre idée, c'était plutôt de créer un jeu vidéo dans lequel on essayait de devenir une star de la chanson et de monter son groupe. C'est bien ça ?
Tout à fait.
Donc comment est-ce que s'est fait la transition ? Pourquoi on passe du groupe et de la chanson à Skip It ?
En fait, au même moment où on faisait ce jeu qui s'appelait Bounce Party, c'était le début de l'avènement du streaming en France. Et on s'est rendu compte, enfin, on s'est pas rendu compte, on a fait le pari que le streaming était plutôt, à notre avis, concerné les gens, on va dire, des fans de musique et des geeks. Voilà. Et que les interfaces qui étaient proposées, que ce soit les smartphones ou sur les ordinateurs, c'est bien, mais qu'une fois qu'ils auraient passé leur premier public, une fois qu'il fallait aller vers ce qu'on appelle le grand public, donc le public bah, de la radio, le vôtre, ça serait peut-être un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a quand même que un peu plus de 6 millions de gens qui sont abonnés au streaming. On est 60 millions.
C'est vrai.
Donc il fallait trouver une solution qui puisse amener la musique chez les gens avec la même, comment dirais-je, ce qu'a apporté l'Internet, c'est-à-dire le côté interactif, le fait que je puisse dire j'aime pas, je skip, enfin ce genre de choses. Donc on a réfléchi. Et ça, c'était dans la suite du jeu. Bon, le jeu, entre-temps, on l'a abandonné. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, la meilleure chose à faire, c'est de faire un terminal qui ressemblerait justement à quelque chose que les gens connaissent, et donc une radio.
Une radio.
Mais qui puisse être interactive et qu'on ne soit pas juste assis devant à écouter ce qu'elle a de radio à nous proposer, ce qui est toujours très bien, mais de pouvoir interagir avec elle.
Donc, c'est le cas avec Skip It, qui est là, qui est en studio, si vous nous suivez sur Europe1.fr, qui ressemble à une radio, effectivement. Sauf que cette radio-là, on peut lui demander tout un tas d'informations.
Exactement. Donc au départ, on avait appelé ça une station de musique interactive, c'est-à-dire
une enceinte connectée, quoi.
Ouais, une enceinte connectée. Et donc on disait bon bah voilà, on va écouter de la musique. On va le faire de façon directe et gratuite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez écouter de la musique sur un smartphone, faut de façon à faire du streaming, vous êtes obligé de prendre au préalable un abonnement qui vous coûte 10 euros par mois. Et nous, on voulait que ça soit, comme on dit, plug and play, c'est-à-dire vous branchez, hop, vous
et
avez de la musique. Et donc, les droits sont inclus. Donc, on est d'abord une plateforme de streaming et on voulait faire en sorte que les gens puissent dire j'aime pas, j'aime. Donc, quand j'aime pas, j'entends plus la musique. J'aime, je mets la musique de côté. Et puis, quand j'ai envie d'écouter autre chose, j'appuie sur ce bouton. Sauf que, comme vient de le dire votre collègue, on s'est aperçu qu'aux États-Unis, il était en train de se passer quelque chose. C'était l'avènement de la voix, avec un taux d'adoption des assistants vocaux que venait de sortir Alexa. On était à peu près en 2013-2014, ce qui était vraiment vertigineux. Donc on s'est dit, si on veut avoir un produit qui a l'air à peu près, comme non pas has-been sur le marché en 2020, il faut qu'on ait la voix.
Il faut qu'on ait la voix et à un moment donné, vous décidez aussi, surtout, de vous tourner vers les personnes âgées. On va dire les personnes âgées. 2017, hein, je crois, parce que vous travaillez avec Digital Airways et vous commencez à développer tout ce qui est service à la personne.
Voilà, donc on ne voulait pas travailler avec nos amis américains. On voulait faire un produit entièrement français. Et puis, c'est un projet normand. Quand on expliquait à nos amis de la capitale ce qu'on voulait faire, la réponse était toujours « Ah bah donc, si c'est du streaming pour les nuls, en fait, c'est pour les vieux. » Et on nous dit ça tout le temps. Donc à un moment donné, on s'est dit, bah ok.
On va faire, puisque c'est ça dont il s'agit.
Après tout, oui, on va le faire pour les seniors. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et on a décidé donc de rencontrer des gens avec qui on pourrait faire quelque chose de vraiment pour les seniors, avec pas que de la musique, puisqu'ils ont d'autres prérogatives et d'autres problèmes.
Vous nous montrez, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors par exemple, quand on est une personne âgée et qu'on a une aide à domicile, qui vient plusieurs fois par semaine chez vous, donc on est en partenariat avec une association qui est la plus grande association française d'aide à domicile qui s'appelle Luna. Alors par exemple, on peut lui demander la chose suivante. Sauf que là, il s'est déclenché et je suis obligé d'attendre qu'il ait... Excusez-moi. Vous voyez, là, il est en train de réfléchir. Ça a l'air, c'est bon.
Là, il nous donne l'heure, ça c'est sûr.
Voilà. Donc là, si je lui dis Jarvis, quand est mon prochain rendez-vous, Una ?
Alors.
Donc là, il réfléchit.
Il va nous répondre. Oui, on voit le petit...
À quoi on voit qu'il réfléchit ?
Ah,
Voilà, donc alors vous n'avez pas très bien entendu.
On a rapproché le micro peut-être.
Peut-être, oui, mais il ne va pas nous le répéter, je pense. C'est demain à 15h30, c'est ça?
Voilà,
ça s'est affiché en gros pour qu'effectivement les personnes voient bien le rendez-vous.
Vous avez une annonce vocale et une annonce... Alors ça, c'est quelque chose d'important. Donc on est en expérience depuis 6 mois chez des gens. On en a mis plusieurs dizaines chez des gens.
Parce que les prototypes sont sortis en avril 2019, voilà. C'est ça?
On a fait ça avec la CARSAT, la Caisse de Retraite Normande. Enfin, pas que Normande, mais là, en Normandie. Et on a donc déployé plusieurs dizaines de prototypes chez des gens dans l'Orne et dans la Manche, ce qui va faire plaisir à quelqu'un ici. Et donc, je vous en parlerai après, mais on a appris beaucoup de choses, évidemment, avec ces gens-là.
Alors justement, on va se tourner vers le quelqu'un en question, Catherine Testard.
Alors deux choses, souvent dans les nouveaux objets, on ne trouve même pas le bouton appuyé pour démarrer. Là, au moins, c'est visuel, on comprend comment ça fonctionne.
Ah mais là, il y a des gros boutons. Hein.
Voilà. La suite. Du coup, vous avez commencé à déployer, donc je vais plutôt vous poser la question, la suite, comment est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens en sont satisfaits?
Alors oui, les gens sont satisfaits. Évidemment, on s'est pris plein de râteaux, hein, c'est normal. Et surtout que, évidemment, les gens, quand on arrive avec une proposition comme ça, ça prend du temps, il faut leur expliquer. Et puis surtout, quand on sort d'une conception et puis qu'on met ça chez les vrais usagers. Par exemple, je vais vous donner un exemple très précis. On avait ce qui est une grande angoisse dans le monde de la voix, c'est l'intrusion. Est-ce que tout d'un coup, la machine ne va pas se mettre à me parler, à me proposer quelque chose alors que je ne lui ai rien demandé, j'ai envie de faire autre chose? Eh bien, notamment sur le service que je viens de vous montrer, là, je l'ai demandé. Quand est mon prochain rendez-vous? Et en fait, on s'est aperçu que les gens voulaient tout simplement qu'on leur envoie tous les jours cette information à une heure précise. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qu'on a appris. Et ça, c'est quelque chose vers lequel on va aller, c'est-à-dire ce qu'on appelle le push d'information, de plus en plus. Parce que finalement, les gens, à partir du moment où vous rendez vraiment un service qui leur est utile, l'intrusion, elle n'existe pas, ils le veulent.
Elisabeth, il existe d'autres solutions pour les personnes âgées. Je crois que vous avez trouvé quelque chose aussi autour de la reconnaissance vocale.
Oui, pour les personnes âgées, Memory Lane, le centre d'innovation d'Accenture Interactive à Sofia, Antipolis.
Avec les Suédois.
Ouais, exactement. C'est en cours, en train d'être expérimenté à Stockholm. Alors, je vais quand même raconter à nos auditeurs ce que c'est. Ils ont développé une solution d'intelligence artificielle pour aider les personnes âgées à raconter leur vie, à rédiger leur mémoire. Et donc, ce nouveau service, c'est évidemment de lutter, l'objectif c'est de lutter contre l'isolement et de raconter de ce qu'ils ont été, ce qui est important pour eux. Et c'est testé, vous venez de le dire, actuellement à Stockholm.
On reste ensemble et on continue à parler de notre voix aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h29.
Europe 1.
Et si on pouvait transformer l'audio en texte pour en retirer les passages importants, c'est ce que fait justement Loïtech. A tout de suite.
Dans la France bouge cet après-midi, à l'occasion de la Voice Tech Paris qui démarre demain et dont Europe 1 est partenaire, nous aurons d'ailleurs un atelier demain entre 16h et 16h30 au salon. Dans la France bouge, on s'intéresse aux innovations dans la reconnaissance vocale. Alors si vous souhaitez réagir, écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1 Raphaël.
On a tous dans nos tiroirs, dans nos ordinateurs, des cahiers remplis de notes, des dossiers entiers qu'il a fallu taper. Et si demain, le compte-rendu d'une réunion avec ses passages saillants pouvait s'écrire tout seul ou presque? Bonjour Nicolas Cavallo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Loïtech, Louis comme évidemment Louis, l'oreille hein, évidemment. Votre idée, arriver à capter les données générées par notre voix et les transformer en texte, mais pour en garder uniquement les idées forces. Comment est-ce que vous avez réussi à faire ce tour de magie?
Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai travaillé pendant à peu près 10 ans dans ce qu'on appelle le traitement automatique du langage. Il y a énormément de méthodologies sur comment retirer de la valeur sur le texte écrit, sur ce qu'on dit. Et on a adapté ça au langage oral, qui est un langage particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle, on utilise également du vocabulaire, mais on ne forme pas des phrases de la même façon. On va baisser notre intonation, augmenter le débit selon les messages qu'on veut faire passer. Je pense qu'en politique, on est très habitué, et même à la radio, habitué de ces méthodologies-là. Et nous, on a adapté donc ces méthodologies de traitement automatique du langage pour retirer de la valeur du texte. On les a adaptées à ce langage particulier qui est le langage oral.
Ça signifie qu'il y a des algorithmes qui reconnaissent les moments importants au ton de la voix, c'est ça?
On va utiliser un petit peu tout, c'est-à-dire à la fois le vocabulaire qui est utilisé, le texte, le vocabulaire, mais savoir également utiliser le débit de parole, donc à quel moment il intervient, pour savoir ce qui est important. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est important de garder le contexte aussi. Parce que là, on est en train de faire une présentation tous ensemble, mais pour moi, si je faisais un résumé de cette intervention, il ne serait pas le même pour moi que pour vous. pour vous, ça serait peut-être, bah, on parle de voix, c'est ça le sujet le plus important. Alors que pour moi, tous les jours, je parle de voix, donc la voix, le thème voix dans cette présentation n'a pas d'intérêt. Par contre, ça va être, ah bah, c'est une présentation à Europe 1. Donc le vocabulaire utilisé dépend, et le compte-rendu, le résumé qu'on veut faire, dépend de la personne à qui ça s'adresse. Et donc il y a toute cette méthodologie qu'on a essayé de créer, qu'on a créée pour rendre un vrai service aux utilisateurs.
Ça veut dire que c'est quelque chose qui est adaptable, qui est personnalisable.
Exactement, et c'est obligé de le rendre personnalisable. Et donc, pour le moment, et je ne veux pas être trop technique, on s'adresse principalement aux entreprises, parce que, justement, le besoin de contexte est très important. Chaque entreprise a sa spécificité, et donc on s'adresse principalement aux entreprises qui ont envie d'analyser des ensembles d'enregistrements audio qui sont souvent assez importants, et c'est très très compliqué d'analyser des enregistrements audio.
Catherine Testa, notre coach.
Alors le sujet est passionnant, ça touche aussi aux émotions, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message. C'est un système d'archivage pour les entreprises, de ce que j'entends. Qui vient vous chercher? Est-ce qu'un manager qui en a marre de prendre des comptes rendus, d'avoir un scribble, puis 2-3 heures à passer derrière, c'est lui qui va venir vous chercher? Qui va venir chercher?
Alors, on va dire qu'il y a plusieurs types de clients. Pour l'instant, par exemple, on travaille principalement avec des universités qui font souvent plein d'interviews et qui veulent analyser ce qui se dit dans ces enregistrements, lorsqu'ils vont faire des interviews de rédacteurs en chef, de députés aussi également, et ils veulent analyser ces enregistrements audio. Donc oui, ils veulent pouvoir étudier, donc savoir à quel moment on a parlé de ça, qu'est-ce qui s'est dit dans ces 300 heures d'enregistrement audio. Des fois, malheureusement, on n'a pas ces 300 heures, on n'a plus qu'une demi-heure ou une heure pour analyser tout ça, donc on l'utilise. Et toutes les personnes qui font des enquêtes qualitatives. Et après, on a les entreprises qui ont justement ce sujet des réunions qui est assez important. On sait, je pense qu'une bonne partie même des auditeurs savent le temps qu'on peut perdre dans ces réunions à prendre des notes, mais aussi à créer ces comptes rendus derrière. Et donc, oui, il y a ces entreprises-là qui veulent créer de la valeur sur ces réunions, automatiser tout ça, et qui souvent ont des actions spécifiques à capter selon le type de réunion qui sont données.
Votre prototype est sorti en 2018, c'est ça? Il a été testé à l'université Paris 1?
C'est ça, pareil. Donc là, ils l'utilisent, ils ont des enregistrements audio qu'ils veulent analyser. Donc directement, on a une transcription qu'ils peuvent, au cas où, corriger, annoter. Et ils ont un résumé de ce qui s'est dit. Et ils peuvent rechercher dans ces ensembles importants d'enregistrements audio.
Elisabeth, la révolution de la voix, si on en doutait, on le voit encore aujourd'hui, est vraiment en marche.
Ah, mais c'est complètement en marche, hein, parce qu'on peut tout faire avec la voix aujourd'hui. Bon, on le sait, on peut écrire des mails en conduisant, c'est vrai. On peut rédiger et rectifier des rapports. On peut monter le chauffage. On peut fermer des volets. On peut poser des questions à son assistant personnel. On peut même tenter de négocier des choses avec des services après-vente. Donc la voix, elle est capable de tout diriger. Et tout à l'heure, vous avez utilisé ce verbe. Je m'adresse à vous, William Simonin. On contrôle, vous contrôlez plein de choses. Hein. Vous avez utilisé ce verbe de contrôler. Ben là, avec la voix, c'est ça. On peut tout diriger. On trouve tout ce qu'on peut trouver dans nos objets du quotidien. Ça va du réfrigérateur connecté à l'enceinte, en passant par la voiture ou le téléphone portable. Tous peuvent donc être commandés par un simple ordre vocal.
Nicolas Cavallo, on a parlé des entreprises. L'idée, ce serait de démocratiser, d'ouvrir aux particuliers. Vous êtes en train de travailler là-dessus?
C'est ça. On s'est dit, c'est dommage. Il y a plein de particuliers qui ont ce besoin-là. Les personnes qui rédigent une thèse et qui vont interviewer énormément de personnes, même des journalistes à titre même personnel, qui ont souvent un nombre assez conséquent d'enregistrements audio et qui veulent les analyser. Et on s'est dit, c'est dommage. On a ce service qui est disponible, donc pour l'instant, qu'on fournit aux entreprises. Donc, on a l'objectif, donc, dans 5 mois, que cette solution soit ouverte aux particuliers. Donc, directement, ils pourront déposer leurs enregistrements audio, avoir accès à ces analyses et travailler directement dessus. On parle souvent, lorsqu'on avait du texte, on avait Word, et l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un peu le Word de l'audio, donc pour pouvoir travailler sur l'audio.
On reste ensemble et on continue à parler voix, reconnaissance vocale, et évidemment, on est sur Europe 1, ça dépend de quel côté on se place, on est d'accord. Il est 13h38.
Europe 1.
Restez avec nous, on vous attend aussi 3921 et Twitter, hashtag Europe 1. Venez participer avec nous et poser vos questions à nos invités. C'est la France qui bouge. À tout de suite. Europe 1 est partenaire de la Voice Tech Paris, un événement dédié aux technologies vocales en France qui a lieu demain et mercredi à Paris-Bercy dans les salons de l'Aveyron. Dans la France Bouge cet après-midi, on parle donc des innovations dans la reconnaissance vocale avec vos invités, Raphaël.
Nous sommes avec William Simonin, cofondateur de Vivoca, François Millet, président de l'entreprise 44 qui a conçu Skipit, un assistant vocal domestique à destination des personnes âgées, et Nicolas Cavallo, fondateur de Louitech, solution innovante qui valorise les données générées par la voix. Notre coach, c'est Catherine Testa, fondatrice de l'optimisme.com et du club des Chief Happiness Officers. Évidemment, Elisabeth Assayag est à mes côtés. On a parlé de reconnaissance vocale, on a parlé d'assistants vocaux, on n'a pas parlé de sécurisation des données. C'est forcément le problème numéro un quand on a des innovations telles que les vôtres. Comment est-ce que vous faites, William Simonin, vous sécurisez, quand on utilise Vivoca, on est certain d'être en toute tranquillité?
Tout à fait, effectivement, c'est une grosse question, c'est un gros sujet d'actualité. Tout d'abord, de manière à faire comprendre à nos auditeurs du coup ce qui se passe vraiment quand on parle de tout ça, il faut voir qu'il y a deux possibilités de faire un assistant vocal. Il y a ce qu'on appelle en fait l'embedded, l'embarqué, c'est-à-dire les assistants vocaux qui ne sont pas connectés à Internet. Donc là, on parle de privacy by design. Donc en fait, comme il n'y a pas Internet, dans tous les cas, il ne peut pas y avoir de fuite. Ensuite, on se retrouve avec des assistants vocaux qui, en général, peuvent se connecter à des services externes pour les fonctionnalités et qui, donc, par le fait, sont connectés à Internet. Donc ensuite, ce qu'il faut voir derrière, c'est sur quel serveur est-ce que les données sont stockées, pourquoi faire et quels sont les fournisseurs sous-jacents. Donc nous, effectivement, chez Vivoca, on est totalement compliant RGPD, donc on protège la donnée de nos utilisateurs. On sait que certains assistants vocaux, c'est pas forcément le cas, la donnée va être remontée pour des actes commerciaux ou quoi derrière. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est qu'on est dans un marché où il y a un gros flou de ce côté-là et il faut vraiment du coup que les utilisateurs soient éduqués. Et pour l'instant, voilà, c'est pas le cas et c'est ce qui, pour moi, du coup, le monde de la voice tech va devoir du coup s'améliorer sur ce côté-là.
Vous êtes d'accord, François Millet?
Je suis d'autant plus d'accord que quand on travaille avec des seniors, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils sont au courant du sujet, puisque bien sûr, les assistants vocaux, tout le monde en parle. Mais les seniors ont une particularité, c'est qu'à partir du moment où ils vous ont accepté que vous rentriez chez eux, c'est qu'il y a déjà un niveau de confiance. Donc, effectivement, le fait de dire que vous êtes français, le fait de dire que vous êtes sur des serveurs français, évidemment, on rentre pas dans ce genre de choses techniques, on l'explique autrement. Mais comme l'a dit mon collègue, c'est la formation le plus important. Et c'est l'explication. Ça prend du temps. C'est ce que font pas, évidemment, les GAFA, puisqu'ils vont sur étagère. Et l'intérêt, quand on va chez les gens et qu'on passe du temps avec eux, finalement, évidemment, eh ben, ils comprennent très bien de quoi il s'agit. Et quant à la RGPD, enfin tout ce genre de problématiques, évidemment, nous, on est même largement au-dessus. Et d'ailleurs, la RGPD, on pourrait en parler longtemps, parce qu'elle est quand même très loin d'être respectée par les gens et par les entreprises. Mais c'est vrai, et je dirais quand même que le sujet, pour moi, est moins prégnant quand on fait des living labs, enfin des tests avec les gens. Il y a un an ou deux ans, c'était vraiment la grande angoisse. Oui. Et ça s'est quand même pas mal apaisé, je dirais.
Même question pour vous.
Au sein de Louitech, ce qu'il faut savoir, les clients sont un petit peu différents, c'est qu'on s'adresse aux entreprises. Et on a choisi de s'adresser aux entreprises parce qu'on a créé une offre où justement on veut la rendre disponible au sein des systèmes d'information des entreprises. Donc on peut stocker ça chez eux. Et ça, c'est un point qui est assez important, c'est où est-ce qu'on va stocker la donnée. Et quand on est sur de la donnée voix, et je pense qu'on l'a un petit peu commencé à mettre en avant, c'est que c'est de la donnée qui peut être très sensible. Donc il y a des sujets qui sont assez compliqués. Par exemple, nous, on travaille avec les banques pour faire des tests sur les réunions. On a des travaux avec les syndicats parce que, effectivement, on peut. Ça donne cette image d'espionner les personnes. Donc, le sujet, c'est un travail de confiance. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on travaille avec les entreprises. On va les former, les accompagner et on fournit ces solutions. Si c'est nous qui les fournissons dans des serveurs localisés en France, c'est un sujet qui est quand même important. Et sinon, qu'on les fournit dans leur système d'information à ces entreprises.
Elisabeth, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, tout à l'heure, on parlait de retranscrire les conversations sur un, comme le Word, que vous disiez, le Word d'aujourd'hui. Eh bien, c'est le cas, on a reçu vendredi la France Bouge Academy, Gaston qui s'adresse essentiellement à des professionnels, notamment dans la médecine, parce que parfois les médecins dictent l'ordonnance ou pour transmettre à un autre médecin, ils évoquent la pathologie de leur patient. Et comment faire pour que ce soit pour pouvoir retrouver chaque patient dans l'ordre, etc. Et ben il y a créé un dispositif, une application grâce à l'intelligence artificielle de reconnaissance vocale.
Et oui, c'est
qui
retranscrit
en Word. Ça s'appelle Gaston.
Dans la France Bouge Academy. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de la voix. On n'aura pas eu le temps d'écouter un petit
petit peu de musique. Hein. Jarvis aurait dû nous mettre un petit morceau de musique. Ce sera pour une autre fois. Merci à tous les trois. On vous donne rendez-vous évidemment au Voice Tech Paris à partir de demain et jusqu'à mercredi soir.
Il est 13h46.
Merci.
Restez avec nous. Dans quelques minutes, on va s'intéresser à la dernière biscotterie artisanale de France, la Chanteur à Coise et l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est la Chanteur à Coise. Bonjour Sylvain Boucher.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez cette biscotterie depuis 15 ans maintenant. Vous l'avez reprise en 2005 à son créateur, Jean-Pierre Pommier, qui a commencé par être, si je suis bien renseigné, apprenti dans les années 50 dans un fournil du côté de Périgueux.
C'est exactement ça. Donc Jean-Pierre était boulanger dans un fournil de Périgueux. Et vous savez, autrefois, dans les fournils, il fabriquait un petit peu de tout. Il fabriquait du pain, des brioches, des biscottes. Et ensuite, le métier s'est spécialisé. Et quelques années plus tard, il s'est installé comme biscottier à part entière dans une grange, dans le cœur du village où nous sommes toujours.
Oui, parce qu'en fait, il avait beaucoup de talent et son patron a décidé de lui transmettre à l'époque la recette de ses fameuses biscottes.
C'est ça, son patron de l'époque s'était spécialisé en brioche, en fabrication de brioche, et donc il a transmis son savoir-faire à Jean-Pierre, donc il a conservé précieusement.
La biscotte, elle a une histoire hein, qui commence au XVIIIe siècle, je crois. C'est très français, la biscotte.
Ah, c'est typiquement français. Les premières traces du biscotte, on les trouve en 1895, et on dit à l'origine que c'est un boulanger qui tranchait du pain pour une dame et qui a eu l'idée de le faire griller pour le conserver. Et lors de la Première Guerre mondiale, ce savoir-faire typiquement français a eu un intérêt pour les soldats qui trouvaient en la biscotte finalement un produit de conservation, un produit de panification pour le quotidien des soldats. Et donc, ils se sont mis à demander aux boulangers de fabriquer vraiment typiquement ce produit pour alimenter le front.
Il y a eu, à la grande époque, jusqu'à 300 biscotteries en France. Aujourd'hui, il n'en reste quasiment pas. Vous êtes la dernière, en tout cas artisanale.
Oui, on a compté jusqu'à 300 biscotteries en 1970. On dit qu'il y avait 2-3 biscotteries par département. Et avec l'arrivée de la grande distribution dans les années 70, le secteur s'est concentré. Les boulangers se sont dit, finalement, quel intérêt on a à distribuer les biscottes vu que nos clients, maintenant, on les trouve en supermarché. Et donc, on est passé de 300 biscotteries à aujourd'hui en France. Il reste une biscotterie sur une poignée d'une main, on peut les compter. Ouais.
Sauf que la vôtre, elle est particulière parce qu'il y a une histoire. Il y a ce fameux Jean-Pierre Pommier, il y a sa recette qu'il a gardée jalousement. Et puis, il y a la transmission, elle n'a pas été simple. Il y a 12 personnes avant vous qui ont essayé de lui racheter l'entreprise. Pourquoi vous ?
Pourquoi moi ? Je ne sais pas. C'est vrai que quand j'ai découvert cette vieille dame endormie dans le cœur du Périgord blanc, dans une grange où travaillait Jean-Pierre, j'ai trouvé ce produit fabuleux, déjà par rapport à son authenticité, le fait que la biscotte est un produit typiquement français. C'était déjà la dernière biscotterie artisanale en France. Il y avait un vrai savoir-faire et un positionnement déjà de qualité. Il était un avant-gardiste, ouais, finalement, parce qu'il faisait déjà la frugalité en faisant moins et mieux. Et donc ça m'a plu dans le projet de reprise.
Parce qu'une biscotte, c'est tout fait à la main. Il y a un travail, c'est repris 10 à 12 fois, c'est ça ?
C'est ça. Pour fabriquer une biscotte, c'est un travail très long. Il faut entre 3 et 4 jours. Et chaque biscotte est repris entre 10 et 12 fois. On commence par fabriquer une brioche. En fait, c'est un pain de mie qui va sécher, qui va être tranché, qui va être cuit effectivement une deuxième fois. D'ailleurs, c'est l'origine du mot biscotte, qui veut dire bi-cuisson. Première cuisson, le pain de mie, deuxième cuisson, le grillage de la biscotte. Et ensuite, il va être repris à nouveau manuellement pour être conditionné. Donc, c'est un vrai travail manuel et artisanal.
Que dit notre coach, Catherine Testa ?
Alors que c'est une entreprise qui véhicule des émotions, je trouve. Quand vous en parlez, ça se voit. Votre site aussi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on peut visiter l'entreprise. Et quand vous parlez de la visite guidée que vous organisez, vous parlez des petites anecdotes que vous allez raconter. Vous ne l'avez pas évoqué aussi, mais vous étiez avant-gardiste en termes de bio, oui, de traçabilité des produits. Et la question que je me pose, est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet et acheter vos produits sur Internet ou pas ?
Alors sur Internet aujourd'hui, peu. On nous retrouve essentiellement en épicerie, en magasin bio, en magasin terroir.
Vous n'êtes pas du tout, et d'ailleurs c'est un choix hein, dans la grande distribution.
On n'est pas du tout en grande distribution et je n'ai rien contre la grande distribution, mais chacun son métier. Et nous on fait du peu et bien, donc on privilégie la qualité à la quantité. Et donc c'est pour ça qu'on travaille avec nos épiceries fines, magasins bio, boulangerie, magasin terroir.
Vous faites 4 à 5000 paquets par jour, c'est ça ?
C'est ça, toute une gamme de biscottes très diverses. Donc, vous l'avez évoqué, la moitié de nos volumes sont des biscottes bio. Et puis, on a une quarantaine de recettes dans la gamme, donc qui fait effectivement du volume. Voilà.
Vous avez repris l'entreprise, il y avait 2 à 3 employés, je crois, qui travaillaient avec Jean-Pierre Pommier. Aujourd'hui, il y a 47 personnes qui travaillent à la Chantéracoise. C'est quand même un sacré bond en avant.
C'est un bond en avant, mais le savoir-faire est resté le même. Et pour fabriquer effectivement ces 4 ou 5000 paquets, il faut effectivement des collaborateurs pour nous accompagner au quotidien.
Donc il a fallu former des gens à ce travail manuel, précis.
Complètement. Donc c'est un vrai travail de compagnonnage en fait, hein, qui se fait d'opérateur en opérateur. Et donc pour maîtriser toutes les étapes de la recette.
La suite, c'est quoi justement ? Continuer à se développer, continuer à faire grandir l'entreprise, rester toujours dans le Périgord, essayer d'essaimer, de refaire vivre peut-être d'autres biscotteries artisanales ailleurs dans le pays ?
Alors, rester dans le Périgord, c'est une volonté parce que la biscotterie était et est toujours donc du Périgord blanc. La démarche que j'ai, c'est pas forcément faire du volume pour faire du volume. Il n'y a pas forcément de sens en ça. Ce qu'il faut vraiment, c'est pérenniser l'entreprise, pérenniser ce savoir-faire. Et pour ça, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des volumes. Aujourd'hui, c'est accompagner nos clients qui sont en croissance. Le marché aujourd'hui du bon se développe. Et donc, c'est faire peu et bien. Donc, et rien qu'en faisant ça, déjà, on a suffisamment à faire parce qu'on continue à avoir une petite croissance régulière sur nos distributions, sur nos produits.
Elle s'appelle La Chantéracoise, c'est la dernière biscotterie artisanale. Vous trouverez La Chantéracoise au chocolat, la gourmande, l'authentique évidemment. C'est une très belle maison, merci d'être venu nous raconter son histoire.
Merci
sur Europe 1.
Il est 13h56.
Merci à Catherine Testa qui était notre coach. Elisabeth,
à demain, Raphaël.
On se voit demain.
À demain, c'était Raphaël Duchemin et dans un instant, vous retrouvez Christophe Ondelat sur Europe 1.